entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Bonjour à tous. Pour commencer cette semaine, je vous propose un voyage dans le temps. Nous voilà en 1664 à la cour du roi Louis XIV. Les divertissements ne manquent pas à Versailles, banquets, fêtes, bals et évidemment représentations théâtrales. Au printemps, un certain Molière présente à la cour sa nouvelle création, Tartuffe, qui tourne en dérision les dévots de toutes espèces. Scandale, levée de bouclier de la très puissante compagnie du Saint-Sacrement de l'hôtel qui demande au roi d'interdire la pièce. La censure royale ne se fait pas attendre. Louis XIV doit calmer les esprits et les attaques qui le visent lui aussi. Sa maîtresse vient d'accoucher de leur fils illégitime et sa morale est elle aussi questionnée par les plus austères représentants de l'Église. Pendant 5 ans, Molière devra lutter, remanier, réécrire et couper pour qu'enfin la pièce que nous connaissons aujourd'hui puisse à nouveau être jouée en public. Une affaire qui l'affaiblit beaucoup, il devient plus sombre, plus cynique et ne s'attaque plus désormais qu'à des traits de caractère, non plus à des castes ou des partis. Il vient sans doute d'inventer le politiquement correct. Bonjour Dominique Ziegler.
Bonjour.
Je sais pas, je vous ai vu hocher la tête pendant que je racontais tout ça. Vous connaissez bien cette histoire, bien sûr, puisque vous venez d'y travailler. Vous présentez une pièce, Ombre sur Molière. Ça commence demain à Genève, au Théâtre Alchimique.
Voilà, j'étais impressionné par votre connaissance du sujet. Il y a juste une petite rectification que je voudrais faire. Il s'est quand même attaqué à la toute fin de sa carrière à la caste des médecins, de manière très courageuse avec le malade imaginaire, puisqu'en plus, il fait cette chose tout à fait magnifique dans le malade imaginaire, il se moque de médecins qui disent qu'ils souhaitent la mort de Molière. C'est-à-dire qu'il met lui-même en parallèle, il met en abîme sa mort à venir. C'est quelque chose de tout à fait vertigineux. Voilà, donc il n'a pas vraiment inventé le politiquement correct. C'est ça qui me plaît chez Molière, c'est justement son courage à la fois artistique et politique. C'est qu'une fois arrivé à la cour de Louis XIV, après 20 ans de galère sur les routes de province,
C'est à ce moment-là précis
qu'il sort le scud le plus puissant, à savoir Tartuffe, qui critique le clergé, qui était à l'époque tout puissant, et surtout qui avait l'oreille de la reine-mère Anne d'Autriche. Mmh. Donc c'est une forme de courage politique et artistique qui
mérite d'être
relevé.
Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il venait d'être nommé à la cour.
Voilà,
dramaturge officiel, disons.
Voilà, quelque chose comme ça. Et surtout, c'était les débuts de Versailles, c'est les tout premiers pas du château de Versailles, si j'ose dire, qui allait s'ouvrir, et il devait ouvrir les divertissements royaux, les divertissements théâtraux, et il le fait avec Tartuffe. Il aurait pu le faire avec n'importe quelle farce, et il le fait avec une charge extrêmement violente contre, en première ligne, les faux dévots. Mais évidemment, tous les religieux ont réagi en disant qu'entre la critique des faux dévots et des vrais, il y avait l'épaisseur d'un papier cigarette et que, justement, tout le monde pouvait se sentir concerné. De cette ambiguïté-là, nous traitons aussi dans la pièce, parce que on peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé Molière à écrire cette pièce, évidemment. Et la raison qu'il invoque pour sa défense, qui est très habile en disant « j'ai voulu critiquer les faux dévots mais pas les vrais », elle est ambiguë parce que on sait que Molière était aussi proche de mouvements libertins et qu'il était assez en avance sur son temps. On sait aussi que le clergé avait horreur des comédiens, qu'il y avait une grande guerre théâtre-clergé depuis longtemps, et il est fort possible que Molière ait pris parti assez drastiquement pour le théâtre contre le clergé.
Mmh. Et Louis XIV dans tout ça ? Parce que la position du roi, elle n'est pas très claire là-dedans.
Alors je vais vous dire, mais juste avant que j'oublie, il faut savoir que la première version du Tartuffe, celle justement dont on parle, qui a été représentée à Versailles et qui a été interdite aussitôt, on ne la connaît pas. On n'a pas de trace vraiment de ce que c'était cette première version de Tartuffe. On a, comme vous l'avez dit, la version finale qui a été remaniée, effectivement sans doute un peu édulcorée. On pense que la première version, on a vraiment affaire à un curé en bonne et due forme. Tandis que dans la dernière version, on a un directeur de conscience qui se réclame du catholicisme et qui est issu de la laïcité, enfin d'un milieu laïque. Alors la position de Louis XIV là-dedans, elle est extrêmement ambiguë et elle est un peu au cœur de notre questionnement dans la pièce. C'est que, bon, il y a beaucoup de choses, je vais essayer de pas être trop confus.
Parce que c'est vous qui avez écrit, il faut qu'on précise, vous jouez pas Tartuffe, vous jouez Ombre sur Molière,
voilà,
c'est le titre de la pièce.
Je vais y revenir.
Qu'est-ce que vous avez écrit, Dominique Ziegler, et que vous avez mis en scène?
Voilà, alors attendez, je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais bon, je vais commencer par la dernière. Alors, la pièce s'appelle Ombre sur Molière, je l'ai écrite et je me suis amusé à l'écrire À l'écrire, enfin amuser, c'est peut-être un grand mot parce que c'était assez long.
C'est du boulot.
Mais je l'ai écrite en alexandrin, en alexandrin classique. Et puis j'ai découvert les règles au fur et à mesure que j'écrivais. Donc j'ai dû beaucoup recommencer, jeter des copies, etc. Mais j'avais vraiment envie de m'imposer ce défi. Et à la fin, on a vraiment une pièce en alexandrin classique, c'est-à-dire avec alternance de rimes féminines, masculines, césure à l'hémistiche, correspondance de rimes pour l'œil. C'est-à-dire qu'il y a des rimes pour l'œil que les gens, par la force des choses, n'entendront pas. Mais je vais l'auto-publier. Puis je vais la vendre à la fin du spectacle pour que les gens voient quand même le boulot. C'est-à-dire qu'un singulier ne peut pas rimer avec un pluriel. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est ce que faisaient Molière, Racine et compagnie. Alors je le fais à mon niveau ziglérien, helvète et modeste.
Mais c'est pas mal fait quand même, parce que j'ai vu le texte. Quel boulot!
Ouais, c'est pas mal de boulot, voilà. Non, mais je suis content. C'était un gros boulot et je suis content du résultat. Et je suis aussi content de l'interprétation. Je vais y revenir. Voilà, et la pièce, elle raconte... cet épisode-là de la vie de Molière, hein, toute l'affaire Tartuffe, et elle raconte aussi la vie de troupe de Molière, ses problèmes conjugaux, on y reviendra. C'est un hommage au théâtre. Avant d'être une affaire politique, c'est surtout, on a voulu rendre un hommage au théâtre et à notre père à tous, qui est Molière. Alors maintenant, en ce qui concerne Louis XIV, on se retrouve dans une situation où Louis XIV est déjà le roi, mais... Il n'a pas encore eu accès, si vous voulez, à la totalité du pouvoir. Une des raisons en est que sa mère est toujours vivante, Anne d'Autriche, la veuve de Louis XIII, et elle est sous la coupe de dévots, mais aussi de ce qu'on appelle la vieille cour, c'est-à-dire vraiment un conglomérat de vieux schnocks archaïques. Tandis que Louis XIV, lui, il est, comme on l'a dit, beaucoup plus libre d'esprit et de mœurs. Hein. Je ne dis pas que c'était un type formidable.
Il a beaucoup de défauts.
Voilà, c'est ça. Il était très libre au niveau des mœurs. Hein. Il avait, comme vous dites, une vie conjugale tout à fait dissolue. Et aussi, par exemple, il entendait un petit peu faire valoir, comment dire, un vent de jeunesse sur la cour. Donc, ces vieux dévots, la vieille cour, sa maman, tous ces gens-là l'embêtaient un peu, même lui mettaient des bâtons dans les roues. Alors maintenant, plusieurs hypothèses sont là. Certains spécialistes prétendent qu'il aurait carrément demandé à Molière d'écrire une pièce qui s'appelle Tartuffe,
qui attaque les
dévots, les clergés, ou, ce qui me paraît plus vraisemblable, parce que j'arrive pas à imaginer Louis XIV ultra pointu politiquement, en tout cas de manière éthique, de manière comment dire, florentine et manipulatoire, oui, mais de manière éthique, j'ai de la peine à croire qu'il soit aussi large d'esprit. Enfin, Louis XIV a en tout cas appuyé Molière après la première représentation du Tartuffe, et même il était forcément au courant que Molière écrivait Tartuffe, mais après il l'a lâché en rase campagne, il l'a vraiment laissé tomber purement et simplement. Et c'est cette ambiguïté-là, on essaye de la creuser, on essaye de la comprendre avec Molière dans la pièce. La pièce, il ne faut pas que les spectateurs aient peur, ce n'est pas un cours d'histoire super casse-pied, c'est pas
ça parle de l'homme,
pamphlet, ça parle vraiment de l'homme, de la troupe. On voit des acteurs au travail, on voit une troupe de chair et de sang. C'est vraiment 1h40 en compagnie de Molière, de sa femme, de sa troupe. D'abord, la vie de troupe, avec tout ce que ça comporte, le principe de répétition, etc. Les rapports humains, parfois un peu conflictuels. Les rapports conjugaux très compliqués de Molière, qui était le compagnon de longue date de Madeleine Béjart, et puis qu'il a trahi, qu'il a abandonné pour sa jeune sœur de 20 ans, sa cadette, qu'il a épousée ensuite. Toutes ces choses-là, on essaye vraiment d'immerger le spectateur là-dedans, qui se sente concerné par le vécu de cette troupe. Et puis après, petit à petit, va venir l'envie d'écrire Tartuffe, d'en découdre avec le clergé l'ennemi des comédiens, et tous les aléas qui vont s'en suivre, la censure, la posture ambiguë de Louis XIV, tout ça en alexandrin, et tout ça très très bien interprété par...
On va dire les noms des comédiens.
Par la distribution dont on va parler.
On peut les dire maintenant, les noms des comédiens, d'accord. Comme ça c'est fait.
On parle de vous y allez.
Allez-y, il y a Caroline Conce, je sais.
Alors Caroline Conce joue Madeleine Béjart, et elle joue aussi la reine Anne d'Autriche, la reine mère. Yves Yeni joue Molière, c'est un acteur absolument formidable. Je le découvre là, c'est la première fois que je travaille avec lui, mais alors les gens verront un Molière de chair et de sang. J'insiste vraiment là-dessus, c'est pas une pièce de musée.
Un homme comme vous et moi, j'ai presque envie de dire.
Voilà, exactement.
Surtout comme vous.
Alors, enfin oui, un être humain comme vous et moi, on va dire. Oui, parce que vous soulevez un point intéressant, c'est qu'on a vraiment voulu que la modernité de Molière, malgré l'alexandrin, il faut encore une fois pas penser que c'est quelque chose d'archaïque, il faut que ça nous parle à nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on montre vraiment la vie de la troupe avant d'aller dans le cœur du sujet qui est le sujet politique. Parce que ce qu'a vécu Molière avec sa troupe, les risques qu'il a pris, mais aussi finalement tout son parcours artistique, ça peut que résonner aujourd'hui par rapport au problème de liberté d'expression, par rapport au problème de l'artiste et du pouvoir, et puis à notre niveau de comédien, de gens de théâtre, je suis sûr que beaucoup de gens vont reconnaître des choses qui vivent au sein même de leur troupe. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça intéressantes, à mon avis, à tirer de ce spectacle. Alors je continue sur la distribution. On a parlé de Yves Yeni qui joue Molière, Caroline Conce qui joue la reine-mère et Madeleine Béjart. On a Jean-Alexandre Blanchet qui joue le comédien Ducroisy, qui était le comédien qui a créé le rôle de Tartuffe. Et il joue aussi un autre personnage intéressant qui s'appelle le curé Roulé, qui a écrit un pamphlet extrêmement violent contre Molière où il appelait carrément à brûler Molière. Hein, et puis il l'a fait de manière très subtile, Roulé. Enfin, le pamphlet en tant que tel n'est pas subtil, il est ultra violent. Mais si vous voulez, il l'a adressé au roi le plus glorieux de l'univers. Donc il a vraiment passé la pommade, léché les bottes du roi, passé la pommade. Et puis après, il a vraiment balancé la sauce très violemment. Ensuite, on verra justement ce curé Roulé en action. Et il faisait partie de la compagnie du Saint-Sacrement sur laquelle on pourra revenir aussi. On a Yasmina Rémil qui est une formidable comédienne qui vient de Vevey, qui a fait le conservatoire de Lyon, qui a beaucoup travaillé au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui va jouer Armande Béjart, donc la jeune sœur de Madeleine, qui va devenir la femme de Molière, qui va devenir la mère de son enfant. Alors concernant le personnage historique d'Armande Béjart, je fais beaucoup d'apartés, vous me dites si je digresse trop.
Vous faites beaucoup de digressions, le problème c'est qu'on va manquer de temps pour parler de vous.
Ah,
alors
tant mieux,
j'aimerais
tant
juste
alors,
que vous finissiez de me dire la liste des comédiens.
Non, la pièce est importante,
mais il ne faut pas trop la survendre non plus, Dominique Ziegler.
Non mais là, je parle d'un truc qui n'est pas dans la pièce, je dis beaucoup de choses qui ne sont pas dans la pièce. Allez-y. Pour juste donner le contexte que je trouve intéressant. Armande, qui était donc la jeune sœur de Madeleine, les mauvaises langues disaient que c'était la fille de Madeleine, donc qu'il avait épousé sa nièce, oui. Molière. Et les très mauvaises langues disaient que c'était la fille de Madeleine et de Molière, donc qu'il aurait pratiqué un inceste de haut niveau. Voilà, mais nous n'allons pas entendre les mauvaises langues de l'époque. Hein. On va rester sur la vérité officielle, qui était déjà assez douloureuse, parce que Molière a trahi sa compagne historique, qui est la femme vraiment qui était son mentor, qu'il a tiré un peu du néant dans lequel il croupissait, qui l'a amené à la troupe de théâtre, qui lui a tout appris. Bref, un problème conjugal, humain, éthique, sur lequel on peut réfléchir. Ensuite, on a Jean-Paul Favre, acteur tout à fait magnifique. Il y a beaucoup de vaudois. Hein, moitié de la distribution est vaudoise, je ne sais pas pourquoi, c'est un hasard. Alors Jean-Paul Favre joue un conseiller du roi pour la culture. Et c'est un peu le référent comique de la pièce. C'est un opportuniste. Quand le Tartuffe est autorisé, il trouve que c'est une pièce formidable. Dès que c'est interdit, il trouve que c'est une pièce condamnable. Dès qu'il y a de nouveau une possibilité que ça soit joué, il la trouve extraordinaire. Dès que de nouveau c'est interdit, il fait la girouette. Voilà, donc on peut aussi en tirer certains parallèles avec des hommes politiques de toute obédience.
C'est vous qui le dites.
Voilà, et ensuite, on a Olivier Lafrance qui joue trois rôles, qui joue Louis XIV, qui joue un courtisan de la jeune cour, un partisan de Louis XIV, et qui joue Monsieur Loyal, l'espèce de super flic qui vient interdire la pièce. Tous ces gens sont de très bons comédiens, ils jouent très très bien. Voilà.
On y reviendra à Molière, ne vous inquiétez pas Dominique Ziegler. Ombre sur Molière, ça commence demain soir à 20h30 je crois, demain soir au Théâtre Alchimique à Carouge, du côté de Genève donc, et puis ça dure jusqu'au 8 octobre, donc...
Jusqu'au 4 octobre,
peut-être 8, qui sait. Allez, peut-être qu'il y aura des prolongations. Mais en tout cas, jusqu'au 4 octobre, on peut voir cette pièce. C'est à peu près tous les jours, il y a une relâche, etc. Tous les détails sont bien sûr en lien sur notre site rts.ch/. Entre nous soit dit, mais la première, c'est demain.
Voilà, la première est pleine, mais il reste évidemment des places pour les autres représentations, parce qu'on a décidé de jouer un mois cette pièce. Souvent, quand on fait une création, on est un peu frustré qu'on la joue que 3 semaines, surtout quand on a mis 3 ans à écrire une pièce. Donc là, on a pris le pari de tenir le coup un mois et les pré-réservations sont bonnes et j'espère que cette émission donnera envie aux gens de venir. N'hésitez pas en tout cas.
On y reviendra à Molière et à cette affaire Tartuffe plus tard dans l'émission. Là, j'aimerais qu'on s'attarde un moment sur vous, Dominique Ziegler. On vous connaît comme dramaturge, comme metteur en scène. Vous êtes maintenant assez bien installé à Genève, on vous connaît bien maintenant. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas joué vous-même dans cette pièce ?
Ah, mais déjà, moi, je pense que j'ai pas le niveau des comédiens qui jouent cette pièce. Et puis, c'est très difficile d'être absolument sur tous les fronts, parce que, comme vous constatez, je suis aussi un peu à la promotion.
Ah, je le vois, oui. Et avec quel talent
On fait ce qu'on peut. Mais, comment dire, les apparences sont trompeuses. Chaque pièce de théâtre est un combat, et il faut être absolument sur tous les fronts, mais vraiment sur tous les fronts. Surtout que là, on est quand même dans un théâtre off, même si c'est un théâtre tout à fait magnifique, l'alchimique qui est sympa, les moyens de production, de promotion sont très faibles. Et il faut être absolument à tous les échelons de la production. Donc, je suis metteur en scène, je fais la promotion, je distribue des flyers.
Bah, ça aussi, on y reviendra, Dominique
voilà.
Zibler.
Et puis, il faut, si vous voulez, il y a un côté chef d'orchestre où il faut coordonner tous les métiers. On a la scénographie magnifique de David de Pierra, les lumières d'Alex Court, le son de Graham Broomfield, les costumes de Trina Lobo, les coiffures et les maquillages d'Arnaud Boutz.
Vous avez vraiment envie de dire tous les noms qui figurent sur ce flyer.
Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça à prendre en compte. Et puis c'est une machine à essayer de faire tourner. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot déjà comme ça.
On reparlera de ça aussi, de cette machine à faire tourner. Vous verrez, ça va vous surprendre, je crois.
Ça va être une
on va commencer par écouter une chanson de Dominique, un autre Dominique que vous, de votre Z, on va au A, Dominique A, Nouvelle Vague.
Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms. Comme on vide le poison contenu dans la dague. Et tu pourras bientôt sortir de la maison. Pas un jour l'amour ne t'a pas relancé. Pas un jour où tu n'as lutter contre le sort, qu'un amour de malheur t'avait jeté. Il t'envoyait encore des signaux de fumée. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension, la bouche délestée poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Et tu pourras enfin sortir de la maison. Pas un jour mon amour je ne t'ai caché t'es mis hors de portée de qui ciblait ton cœur. J'étais le paravent des signaux de fumée. J'étais la sentinelle face au chant des frayeurs. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms. Comme on vide le poison contenu dans la dague. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension, la bouche délestée du poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Je te ferai enfin sortir de la maison.
Ça, Ça, c'était l'autre Dominique, Dominique A, avec Nouvelle Vague, pour commencer cette émission avec vous. Dominique Ziegler, à vous maintenant de parler de vous, parce que vous avez beaucoup parlé de Molière, beaucoup de la pièce, beaucoup de vos comédiens. Ombre sur Molière, ça commence demain, 20h30, au Théâtre Alchimique, à Carouge, du côté de Genève. Demain, c'est complet, c'est la première, mais les dates suivantes, eh bien, il reste de la place. Il faut aller voir sur notre site rts.ch/, entre nous soit dit, pour trouver le lien qui vous emmènera à Ombre sur Molière pour réserver des places. Place à une autre voix maintenant, un autre bavard.
Et Bakounine a dit « L'enfant n'appartient ni à sa famille, ni à la société, il appartient à sa liberté future. » Voilà, il n'y a pas mon fils, il y a un être que j'ai vu grandir, formidable, une femme que je vois vivre, formidable. Il n'y a pas d'emprise quelconque, qui ne sont pas à moi, ils sont à leur liberté, c'est déjà assez mystérieux, comme ça, vous comprenez. Alors qu'est-ce que je peux apprendre à qui est mon fils, comme vous dites? Je ne pense rien, on voudrait, l'éducation ça n'existe pas, on ne peut pas former quelqu'un, on peut être face à ce quelqu'un le plus honnêtement possible, le plus proche possible de son propre être, vous comprenez, le plus transparent possible. Et si je fais mon métier d'homme convenablement, si je travaille vraiment, parce que je suis un privilégié parmi les privilégiés, vous imaginez, professeur à l'université, cette liberté, vivant dans les blancs, bien nourri, vivant dans cette Suisse libre où les libertés publiques sont assurées, où il n'y a pas un Milosevic à chaque coin de rue. Quand on a l'incroyable chance d'avoir les privilèges que j'ai, que rien n'explique finalement et que rien ne justifie, au moins qu'on transforme ces privilèges en armes dans le combat contre l'oppression et pour la libération des hommes, d'ici et au-delà des mers. Alors, si je fais ça, enfin, si je tente de faire ça convenablement tous les jours, hein, avec le moins de paresse, de mensonge, d'indolence qui nous guette à tous les moments, et d'hédonisme possible ou de vanité, enfin, tous les dérapages qui sont toujours possibles, si j'essaie de faire ça tous les jours, je crois que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire pour mon fils.
Maintenant, on sait d'où vient cet art de la parenthèse ou de la digression. Dominique Ziegler, c'était votre père, Jean, en 1999, au micro de Sarah Dirène. Alors, quand on lui demande qu'est-ce que vous pouvez apprendre à votre fils, il dit bah, rien. Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Je m'excuse, je digresse encore sur la pièce, après je réponds à votre question, parce que ça me fait penser, Pierre-Alexandre Geoffrey, qui est le directeur du Théâtre Alchimique, me disait hier, en voyant une répétition de la pièce, il m'a dit « t'as écrit une pièce sur notre père à tous, Molière. C'est le père de tous les gens de théâtre, mais c'est aussi le père du public, par ce qu'il nous a légué de sa faconde comique, de son analyse de caractère et, encore une fois, de son courage politique. Donc, il y a un père spirituel qui est Molière, en tout cas en ce qui concerne beaucoup de genres de théâtre, et je m'inscris dans cette lignée à mon niveau. Hein, c'est vraiment une boussole. Et puis après, il y a la vie personnelle, effectivement, où là, c'est la famille qui est déterminante en premier lieu. Alors, mon père m'a légué, évidemment, beaucoup de choses. Hein, la première des choses étant l'amour paternel, qui est quand même un peu la base de toute éducation digne de ce nom. Là-dessus, il a fait son boulot, ma mère aussi. Donc, à partir de là, les bases sont saines, si vous voulez. Et puis après, dans les choses très positives, c'était l'ouverture sur le monde, je dirais, notamment cette ouverture sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, avec beaucoup d'Africains, de Latinos qui venaient à la maison. Donc j'ai eu aussi de Perses, enfin je me souviens d'amis iraniens opposants à Khomeini qui étaient souvent à la maison. Tout ça, ça donne une mosaïque, une vision du monde qui est intéressante. Et puis après, il y a eu les voyages. Hein, on est surtout particulièrement en Afrique noire, où là, j'ai vraiment découvert un continent qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui, qui est quelque part une autre planète, où je trouve qu'il y a une supériorité morale, éthique, une manière de se comporter dont on aurait beaucoup à s'inspirer. Au lieu de ça, évidemment, on les a réduits en esclavage. On est encore en train d'essayer de, j'essaie de trouver un terme poli, mais je vais pas le trouver, de leur niquer la gueule. Voilà, donc l'Afrique m'a beaucoup appris, et ça, c'est grâce à mon père, aussi grâce à ma mère qui est à moitié arabe. On est souvent allé en Égypte, en Algérie, tout ça. Donc cette ouverture sur le Sud, sur les civilisations du Sud, a été déterminante, si vous voulez. C'est ça que je retiens en particulier.
Et il vous laissait gambader, hein. Il allait lui faire ses séminaires en Afrique, puis vous, vous pouviez vous balader tranquillement.
Voilà, c'était très paradoxal, parce qu'en Suisse, à une certaine époque, la situation était un peu tendue par rapport à certains bouquins qu'il avait écrits. Donc moi-même, enfant, je devais faire un peu attention. Par contre, en Afrique, là, toute prudence et toute peur disparaissaient. Et c'est vrai qu'il me laissait gambader, parce qu'il avait une confiance totale dans les mœurs, dans la société africaine. L'honnêteté m'oblige à dire qu'aujourd'hui, avec le monde qui devient de plus en plus dur, là, peut-être qu'on réagirait pas pareil. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé très jeune, à me promener dans des quartiers de Cotonou, de Bamako, de Ouagadougou, à me retrouver chez des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, à me retrouver dans des cours, à boire du thé, à manger du riz au poisson, mais vraiment chez des gens que je connaissais absolument pas. Et plus tard, jeune adulte, avec mon sac à dos, je me retrouvais aussi hébergé par des gens. J'ai la prétention de savoir voyager, parce que les gens savent accueillir, et les Africains en premier lieu, mais aussi en Bolivie, je me suis retrouvé dans des fermes avec des grosses indiennes à chapeau melon qui me donnait des feuilles de coca, qui me donnait du riz, des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours été très relax en voyage, beaucoup plus qu'en Suisse d'ailleurs. Je suis pas tout à fait la même personne en Suisse qu'en voyage. Les voyageurs le savent, on est souvent une meilleure personne en voyage, parce qu'on a tous nos sens à disposition, on est plus ouvert. Mais c'est surtout parce que ces gens-là nous le rendent bien. Je pense encore à une chose, par exemple, maintenant avec l'espèce d'islamophobie rampante, terrifiante qui monte en Europe, j'ai un souvenir d'un voyage au Pakistan où tout d'un coup je me suis retrouvé à 4h du mat à taper à une maison et des gens m'ouvrent, il y a 10 personnes dans une chambre, tout le monde sort, me laisse le lit. Et quand je me réveille le matin, j'ai des œufs au plat, les gens qui sont autour de moi. Je veux dire, pour moi, l'hospitalité, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou animiste,
humaine,
c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et cette hospitalité-là, je l'ai trouvée essentiellement dans les voyages en Afrique, en Amérique latine, un peu en Asie. Parfois en Europe, plus rarement. Mais voilà, c'est ça que mes parents m'ont légué en priorité. Et puis évidemment, après, il y a tout une espèce de bagage intellectuel quand même. Mes parents sont des grands lecteurs, donc je suis aussi un grand lecteur par la force des choses. Beaucoup d'anecdotes politiques, historiques, que après j'ai dû quand même revérifier, parce que comme vous savez, mon père est orienté politiquement,
un
certain parti pris, donc des fois par rapport à certaines choses qu'il me disait, je devais un peu recouper.
Mais vous n'êtes pas allé non plus complètement dans l'autre sens.
Je ne suis pas allé complètement dans l'autre sens, mais je ne suis pas d'accord avec tout, évidemment, mais comme on ne lave son linge sale qu'en famille, je ne vais pas en parler à la radio.
Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson. C'est une chanson des Doors que vous aimez bien. Ouais. Alors, elle est assez longue, elle dure 7 minutes 49, donc on ne va peut-être pas l'écouter en entier. Mais ça s'appelle LA Woman et ça, c'est peut-être une chanson à écouter en voyage, vous l'avez sûrement fait.
Ouais, je l'ai écoutée partout, cette chanson. Sac à dos avec mon Walkman, mais surtout au collège Claparède où j'ai fait mon école secondaire. C'est là où j'ai découvert les Doors. Ça a été un choc immense. Et ça, mes parents ne me l'ont pas légué. Mes parents étaient nuls au niveau du rock. Mon père ne comprend absolument rien au rock. Là, c'est un grand fossé entre nous deux. Voilà, les Doors, c'est mon éducation à moi tout seul.
You got in a dinner, if they say I never loved you. You know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman.
Alors ça c'est les Doors, Jim Morrison bien sûr, c'est votre choix, Dominique Ziegler, LA Woman, la chanson à écouter en voyage entre la Bolivie, l'Afrique, vous nous avez fait rêver, le Pakistan. On va revenir au théâtre, ça va vous faire plaisir, mais attention, vous n'avez pas le droit de dire le mot Molière, c'est interdit.
Difficile.
Écoutez.
C'est une banalité de dire que tout est théâtre, à commencer par exemple par le monde de la politique. Enfin, tout est un peu une action théâtrale. Et finalement, j'essaie d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de moi. Parce que tout est matière à reconcentrer sur la scène théâtrale, dans mon sens.
Mais le théâtre, c'est un peu votre maison, votre première maison tout de même.
Oui, oui.
Parce que vous y passez beaucoup de temps.
Énormément, ouais. Oui, en effet. Bon, justement, à l'heure actuelle, le théâtre, bah, c'est aussi l'administration, ce sont les relations publiques, c'est mille domaines, c'est le graphisme, c'est tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses qui m'intéressent et qui gravitent un tout petit peu autour du théâtre. Enfin, le théâtre implique tellement de métiers, en définitive, et je ne parle pas des métiers du plateau, bon, par exemple. Il faut avoir une connaissance, à mon sens, pour diriger une boutique comme ça. Il faut avoir une connaissance du travail des machinistes, des électriciens, des décorateurs, de tout le monde, afin de pouvoir avoir des idées et imaginer, pouvoir réaliser certaines choses et savoir qu'elles sont réalisables aussi. Et aussi avoir une idée financière des affaires afin de se dire que ces choses-là sont réalisables également financièrement. Ça, c'est capital, bien entendu.
Je vous avais dit que vous seriez étonné, Dominique Ziegler, tout à l'heure. Vous disiez exactement la même chose que George Vogt vient de dire là. C'était en 1987, au micro de Patrick Ferlat.
C'est mystérieux, effectivement, mais en même temps, c'est logique, parce que c'est des métiers qui impliquent ça. Plus on avance dans ce métier, plus on s'aperçoit que les responsabilités sont multiples et qu'on devient un chef d'orchestre et qu'il faut absolument tout gérer, tout essayer de coordonner. C'est pas possible de déléguer complètement. Bien sûr qu'il faut faire confiance aux spécificités des métiers avec lesquels on travaille, notamment les métiers techniques, où moi je touche pas une biche, je suis très très mauvais manuellement. Mais il faut quand même être derrière, voir que tout concorde, voir qu'il y a une unité. C'est plus en avance, je pense, dans ce métier, plus on s'aperçoit qu'il faut être multifonction. D'ailleurs, c'était le cas de Molière.
Hein. Bah, vous avez une amende.
C'était le cas de Molière, dont on a retrouvé certaines choses dans les registres de Lagrange, où on voit qu'il y avait aussi tout ce côté qui est moins magique. Hein. Au début, c'est marrant, je refusais de voir ça de Molière. Pour moi, c'était l'auteur, metteur en scène, comédien.
Intouchable.
Mais non, il était aussi dans des problèmes de gestion d'argent, etc. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas très excitantes pour le public, mais c'est une réalité. Si on veut que les spectacles se fassent, il faut passer par ce qu'a dit George Vogt. Je vais me permettre une petite digression, si vous permettez. Un grand comédien, un grand homme de théâtre né à Lausanne vient de décéder. Il s'appelait Raoul Teuchère.
Oui.
Et c'était un excellent comédien et un très bon metteur en scène. Et justement, parfois on partageait ce genre de discussion. Lui aussi, il devait mettre sur pied des projets. Lui aussi, il se bagarrait. Lui aussi, il s'attelait à la production. Il était le chef d'orchestre de ses propres productions. Donc,
il avait un projet en cours, d'ailleurs.
Il avait un projet en cours, ouais, sur Ibsen. Donc vraiment... Que les spectateurs, que les spectateurs, que les auditeurs et les auditrices s'intéressent à la carrière de Raoul Teuchère, parce que c'était vraiment un grand, grand monsieur du théâtre. Mmh. Et c'est très triste qu'il soit décédé, là, il y a quelques jours. Voilà, une pensée pour lui. Mmh. Et Georges Vode également, donc, dont on a entendu la voix. C'était aussi un grand monsieur du théâtre.
Vous l'avez connu assez tôt, parce que vous êtes arrivé au théâtre de Carouge, à vos débuts.
Voilà, en fait...
J'ai
rencontré Georges Vode au collège Claparède, c'était mon prof de théâtre, et puis après je l'ai connu après au conservatoire, et après finalement il m'a engagé au théâtre de Carouge, et j'ai aussi évidemment travaillé avec Raoul Teuchère qui avait magnifiquement incarné le banquier Weinstein dans une pièce qu'on avait fait aux poches. Voilà, tous ces gens sont des gens vraiment qui nous lèguent des choses. La vie est courte, je sais pas comment dire, mais ils nous lèguent des choses dont on doit s'inspirer. C'était des aînés, hein, et ça c'est très africain aussi, de prendre des choses des aînés. C'est ça qui est un peu dangereux dans la modernité actuelle, et c'est pourquoi des fois je me retrouve pas dans certains courants théâtraux qui veulent tout balayer. Je crois à la tradition, je crois
à la...
C'est
pour ça que vous écrivez en Alexandre.
Voilà, entre autres, ouais. Je crois que parfois l'archaïsme peut être révolutionnaire, et le modernisme réactionnaire, c'est peut-être un peu long à développer, mais je le crois.
On comprend l'essence
de ce que je dis. Hein, c'est que l'artisanat théâtral, qui se fait par des générations qui nous précèdent, par des gens qui ont d'autres expériences, ça ne doit pas être balayé au profit d'une espèce de morgue jeuniste, arrogante. Au contraire, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est un corps artistique, soudé, que c'est un artisanat dont on peut avoir plusieurs conceptions différentes, mais il faut vraiment prendre de ce que nous lèguent les aînés, et tant Raoul Teuchère que Georges Vode sont des gens dont on doit s'inspirer, et le théâtre aussi est un art éphémère, si vous voulez. Donc une fois que les gens sont décédés, on a un peu tendance à les oublier. C'est la grande cruauté du théâtre, contrairement au cinéma. C'est pourquoi je pense que voilà, la mémoire, se souvenir des gens, se renseigner sur eux, même quand ils sont plus là, c'est important.
C'est éphémère, mais en même temps, les gens comme vous, les metteurs en scène, les jeunes metteurs en scène, car vous êtes encore jeune, Dominique Zinkler, se nourrissent de ce passé. Finalement, ces gens-là continuent d'exister dans les autres, qui se construisent forcément à partir de quelque chose. On ne peut pas se construire à partir de rien.
Voilà, alors, oui, on ne va pas être polémique.
C'est ça que vous vouliez dire.
Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, dans la société dans laquelle on vit, qui est une société de la consommation, qui est une société de l'obsolescence, hein, d'aller vite, on a un peu tendance à oublier les leçons du passé, hein. Et c'est malheureusement valable aussi pour le théâtre. On a des scènes et des tendances francophones, notamment, qui pensent que raconter des histoires, c'est de la merde, pour aller vite, hein. Ça, on l'entend de plus en plus souvent dans une certaine sphère théâtrale, que la simple idée de raconter une histoire est totalement réactionnaire, passéiste. Or, évidemment, ça peut paraître un peu bizarre aux yeux du public, mais nous, gens de théâtre, devons parfois nous battre contre cette tendance, faire comprendre que écrire des histoires, eh bien, ça remonte à la nuit des temps, que c'est une tradition. J'en veux pour preuve, par exemple, la Société Suisse des Auteurs dont je fais partie, qui a écrit un bulletin où je me suis beaucoup énervé, qui expliquait que peut-être il fallait considérer la fin de l'auteur. Voilà. C'est des choses internes au milieu du théâtre que les gens connaissent pas forcément, mais il faut savoir que beaucoup de gens comme moi qui avons une conception traditionnelle du théâtre, qui consiste simplement à raconter une histoire aux gens avec un maximum d'émotion, un maximum de rythme sur scène, etc. Parfois, on doit lutter contre des tendances où on nous explique qu'en fait on est un peu ringard, et puis que mieux vaut tout déconstruire, se jeter contre les murs, être à poil. Voilà. Mais ça, ces gens-là arrivent à choper beaucoup de pognon et à en laisser très peu aux raconteurs d'histoires. Voilà. Je ferme la parenthèse polémique, mais c'est juste pour que vous compreniez que ce que vous disiez n'est pas forcément toujours évident. Évidemment, dans la logique absolue, il faut s'inspirer des gens qui précèdent, et c'est ce que font quand même la majorité des gens de théâtre. Quoi.
Mmh. Il faut faire les choses quitte à manger des spaghettis, ça c'est de vous cette citation.
Ouais, c'était...
Je ne sais pas si vous mangez beaucoup de spaghettis. En même temps, on entendait aussi votre père tout à l'heure, Jean Ziegler, qui disait « mais je suis un privilégié, et par ma position privilégiée, je peux me permettre de faire tout ça ». Vous aussi, vous vivez dans un village,
oui,
à la campagne genevoise,
c'est ce que
une jolie maison.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'est pas, il ne faut pas non plus, être complètement... misérabiliste, hein. Faire du théâtre à Genève, c'est mieux que de faire du théâtre à La Paz ou à Cotonou, hein. Et effectivement, je suis pas parti avec les plus mauvaises cartes de départ, mais voilà, il y a des tendances, si vous voulez, dans le monde artistique, parce qu'on est, si vous voulez, tributaire des subventions et des modes, et les modes se font par, pour revenir à Molière, par des par des castes, par des coteries, parce que les Français appellent les petits marquis. Hein. Moi, je discute souvent avec des camarades français. Ils souffrent beaucoup que sur les scènes nationales françaises, qui sont censées être un théâtre public, il y ait justement qu'une tendance un peu à l'onanisme théâtral, où finalement le public ne va plus. Et le public se rabat après sur les théâtres privés. Mais après, on a un autre problème, c'est que c'est la tête d'affiche qui est déterminante. Enfin, voilà, les Français ont des problèmes. Je dirais qu'à Genève, on a encore pas mal de chance par rapport à cette situation. À Lausanne, c'est un peu plus compliqué d'après mes discussions avec les camarades artistes. Enfin voilà, d'une manière générale, personnellement, je ne me plains pas, mais ça tombe pas du ciel non plus, il faut se bagarrer quoi.
Faut se bagarrer, faut dénoncer des choses que parfois vous n'avez pas forcément vécues aussi, hein. Vous avez grandi aussi dans un environnement assez privilégié, il faut le dire, Dominique Ziegler. Un peu gauche caviar, certains diront, les détracteurs diront ça.
Non, bah écoutez, moi j'ai grandi dans un village qui s'appelle Choulet, qui est à la campagne, qui a un cadre effectivement magnifique parce que c'est la campagne genevoise, donc c'est pas la banlieue nord de Marseille, ça c'est sûr. Après, je pense que je veux pas non plus faire le chialeur, mais je l'ai quand même roté aussi de par la position familiale. Donc, si vous voulez, j'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit non plus. Je me suis endurci, je me suis bagarré. C'est vrai, j'ai pas grandi dans la banlieue, mais c'est pas pour autant que j'ai pas eu de soucis, on va dire. Et puis, évidemment, c'est pas parce qu'on a grandi dans un cadre plutôt confortable qu'il faut se désintéresser de ceux qui ont pas ces chances-là. Bah, sinon. Sinon, voilà quoi. Sinon, on fait rien. Sinon, on va le monde. Et puis, le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. On sait que souvent, les prolétaires aspirent à un certain confort. Donc, ils vont se faire plus facilement choper par des mecs par une espèce de discours comme ça, démagogue de droite. Voilà. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a des prolétaires qui sont complètement lettrés, qui font avancer les choses. Enfin, on peut pas résumer, si vous voulez, les gens et leurs opinions par leur origine sociale. Ça, c'est totalement impossible. Sinon, Kropotkin, qui était prince russe, il n'aurait pas été le père de l'anarchisme, si vous voulez.
Vous, à quel moment vous avez décidé, Dominique Ziegler, que ce que vous aviez à dire, vous alliez le dire à travers le théâtre et surtout à travers l'écriture de théâtre et la mise en scène?
C'est un long processus, extrêmement chaotique.
Parce que vous avez d'abord fait une école de comédien, hein, vous avez
ouais,
le conservatoire,
j'ai fait,
vous disiez,
j'ai fait
Serge
école,
Martin.
J'ai fait une école de comédien qui était assez vaste, en fait, où on pouvait toucher tous les domaines, qui s'appelait l'école Serge Martin, qui s'appelle toujours l'école Serge Martin. Et Serge Martin est issu de l'école Lecoq. Et chez Lecoq, justement, ils ont tendance à balayer tous les genres de théâtre possibles et imaginables. Mais c'est des choses qui sont très fantaisistes parfois. Hein. Tout d'un coup, tu fais l'huile de salade, tu composes la salade. Après, tu te retrouves avec l'alexandrin. Après, tu fais le bouffon. Alors, c'est une espèce de zapping extrêmement intéressant de tout ce que peut offrir le théâtre. Mais une fois terminée cette école, il fallait un peu se débrouiller. Et justement, il y avait une chose, encore un disparu, je crois d'origine vaudoise, encore, hein, qui s'appelait Gérald Chevrolet. Il y a eu un stage d'écriture avec Gérald Chevrolet, d'écriture théâtrale, où là, il fallait monter un projet de A à Z. Et j'ai écrit une petite satire. Et puis, en fait, tout d'un coup, ça m'a fait tilt. À ce moment-là, j'ai monté la satire. On l'a joué à Artemis, je me souviens, la troisième année de l'école Serge Martin. Et ça a eu pas mal de succès. Ça a eu pas mal de répondants. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser avec l'écriture.
Ça, c'était René Schtierlimann?
Non, c'était elle est pas connue. C'était sur un jeune trader qui prenait de la coke et qui dépeçait les bébés. Enfin, c'était un truc assez trash, avec déjà un peu de hard rock dedans. Et là, la pièce où tout d'un coup, je me suis senti très à l'aise, c'était une pièce justement qui rejoint mes préoccupations, qui sont les préoccupations essentiellement liées à l'Afrique, au colonialisme, à la violence coloniale. J'ai fait une pièce qui s'appelait Ndongo revient,
qui a eu grand succès.
Qui a eu grand succès, mais alors justement, qui était parti pour devenir un bide stratosphérique, parce qu'on était justement des comédiens au chômage, avec mon pote David Valère et un autre comédien au chômage, François Revaclier, que j'avais rencontré dans un stage de chômeur, justement. on était vraiment au point zéro. Et puis, je me suis dit que j'allais mêler ce que j'avais déjà appris sur le métier théâtral avec ce que j'avais envie de raconter sur l'Afrique, sur le postcolonialisme, etc. Et évidemment, il fallait aller à l'économie. Alors, j'ai fait une pièce où c'est un président blanc qui rencontre un dictateur black. Et cette pièce-là, on l'a jouée dans le sous-sol d'une auberge. D'abord, on l'a évidemment proposée à tous les théâtres. Personne n'en a voulu parce que le théâtre politique et en plus comique, très mal vu, hein, très mal vu par la tendance, justement. Et puis, on l'a jouée dans le sous-sol d'une auberge. Et à notre grande surprise, avec 3000 francs de budget de départ, à notre grande surprise, les gens sont venus et le journal Le Temps a fait un très bon article qui a un peu lancé l'affaire. Après, ça a été lu par des gens à Paris qui nous ont fait venir et les choses se sont enchaînées. Après, on était au théâtre La Grenade chez Françoise Courvoisie à Genève, ensuite à Bouligny, ici à Lausanne, après deux saisons de suite à Carouge. Voilà. Donc c'était
la surprise.
C'était la surprise parce que vraiment, ça, on se disait si on arrive à remplir péniblement une semaine, on peut s'estimer heureux. Quoi.
On va continuer à parler de vous et vous allez être content parce qu'il me reste une dernière archive. Alors là, vous allez être enchanté, Dominique Ziegler, j'en suis sûr. Mais avant ça, on va prendre des nouvelles de la route et ça, je suis sûr aussi que ça vous fait plaisir.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Lausanne, un accident survenu entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Blecherède provoque des ralentissements en direction de Vevey sur l'axe Cassou-Lucerne. Un bouchon de 2 km s'étend toujours devant l'entrée sud du tunnel du Saint-Gothard en direction de Lucerne, soit une attente d'une demi-heure environ.
Il me semble que on peut dire que le scandale qui a eu lieu au 17e n'était pas uniquement un fait des dévots. J'entends, ou en rapport avec la dévotion, en rapport avec la religion et la question religieuse. C'était plus profond que ça, le scandale de ce théâtre-là. Je pense que c'est un théâtre qui ne pouvait pas être admis par les élites parisiennes de l'époque. Ce qui était présent dans la Renaissance française avec Rabelais, avec Montaigne, a été singulièrement châtré au cours du XVIIe.
Le côté débridé, le côté populaire, le côté...
Oui, le côté sensuel, la sensualité, enfin le côté charnel de tout ça. Oui, ça a été élagué, sérieusement, comme les jardins l'ont été. Et ça, je pense que pour le génie de Molière, ça a été quand même une épreuve assez dure.
Retour à vos amours du moment, Dominique Ziegler, puisque vous jouez, vous faites jouer demain Ombre sur Molière, votre pièce que vous avez écrite en alexandrin et que vous avez mise en scène. Et ça se passe au Théâtre Alchimique à Carouge, du côté de Genève. Demain à 20h30, c'est la première. Et puis ensuite, jusqu'au 4 octobre, on peut aller la voir. Donc on a du temps, mais ne tardez pas trop quand même, parce que ça passe vite, les auditeurs. Alors, on entendait la voix de Benoît Besson, qui était en 1995 au micro de Jean-Michel Meyer. C'est le moment où il mettait en scène justement Tartuffe. Au théâtre de Vidy-Lausanne. Autre théorie sur Molière et sur cette affaire Tartuffe.
Non, théorie concomitante.
La même, oui.
Théorie concomitante, parce que effectivement, il y a le volet politique dont on a parlé, mais il y a aussi le volet intrinsèquement théâtral, c'est-à-dire ce que dit Benoît Besson très justement, c'est que le fait de monter une comédie qui plus est sur des sujets sérieux, qui plus est sur un sujet tout encore plus sérieux que tous les sujets sérieux, c'était vraiment le blasphème total. Donc là, je vais venir à ce que disait Besson, c'est-à-dire c'est le problème de la comédie, le problème du rire était très mal vu par le clergé. Déjà, le théâtre était mal vu, hein, mais alors le théâtre comique, c'était vraiment ce que dit Besson, hein, les égouts de la populace.
Ça n'a pas tellement changé,
figurez-vous. C'est vrai que j'en ai fait l'expérience moi-même. Plus je fais des pièces sérieuses, plus elles marchent. Par exemple, celle sur Jaurès que j'ai faite il y a 2 ans, elle est allée à Avignon. Là, je pense que c'est mon plus gros succès en termes de diffusion, comme ça. Hein, mais c'était pas une pièce très rigolote. Et d'autres pièces ont bien marché aussi, mais le comique est toujours mal vu, un peu
trop
même
populaire.
Par des gens de théâtre. Ouais, il y a toujours une méfiance comme ça, une odeur de soufre. Alors, pour revenir justement à l'affaire du théâtre et du clergé, hein, il faut savoir que le clergé avait vraiment une méfiance très violente vis-à-vis du théâtre, qui date du temps, si vous voulez, où chez les Romains, on faisait des spectacles de théâtre dans les jeux du cirque, hein, puis juste après, on faisait bouffer les chrétiens par les lions. Donc là, il y a eu comme ça un traumatisme de base dans la chrétienté qui s'est propagé ensuite quand Constantin s'est converti au christianisme. Hein. À partir de là, le théâtre était vraiment très mal vu, et puis il y a un gros trou noir dans l'histoire du théâtre européen jusqu'à, au Xe siècle, comme ça, où très bizarrement, c'est la religion elle-même qui a ressuscité le théâtre à travers des mystères, à travers des représentations de la chose religieuse. Avec un truc très rigolo, c'est que les moines eux-mêmes jouaient parfois des femmes. Vous voyez, donc on est vraiment dans des choses un peu bizarres et contradictoires. Mmh. Et ces mystères ont commencé à prendre beaucoup d'essor, hein, à devenir vraiment de vraies représentations populaires, avec tout le monde qui jouait Jésus, l'enfant, etc. à tel point que, de nouveau, le théâtre, comme s'il avait une espèce de, comment dire, de moteur interne, a ressuscité le comique à l'intérieur de ses mystères, et ils ont commencé, si vous voulez, ce que j'adore moi dans le théâtre, à parasiter le sérieux pour
faire des
farces religieuses. À l'intérieur même, ils ont fait une espèce de d'entrisme comique à l'intérieur des mystères, ce qui fait que à nouveau la religion s'en est mêlée et n'a plus été très contente hein, de toute cette affaire. Et si vous voulez, mais c'est très compliqué tout ça, hein, mais c'est en même temps passionnant. Enfin, j'espère que ça intéresse les gens. C'est Richelieu puis Mazarin à la cour de Louis XIII puis XIV qui ont redonné leur lettre de noblesse au théâtre à travers cette fois un genre relativement nouveau, enfin en tout cas qui était tombé en décrépitude depuis les Grecs, qui était le théâtre de texte. Hein, le théâtre littéraire. Et c'est là, c'est grâce à Richelieu qu'on a eu Corneille, Racine et compagnie. Voilà. Alors, ça veut dire que Molière et consorts avançaient en terrain quand même miné. C'est-à-dire qu'ils avaient des choses qu'ils pouvaient faire, mais le terrain était quand même très, très vaseux, branlant.
Et on le voit avec l'affaire Tartuffe.
Et c'est ça qui est extraordinaire, et encore une fois que je trouve tout à fait remarquable dans l'affaire Tartuffe, c'est que Molière décide de faire une pièce comique où il s'en prend au clergé. Alors là,
et c'est là qu'il est très très gonflé.
Il est très gonflé.
En même temps,
c'est là
je me suis demandé, Dominique Ziegler, en lisant la pièce, en lisant des choses sur la pièce et des choses sur vous, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de lui, de Dominique Ziegler, dans ce Molière qui est là mis en scène?
Alors, je veux juste compléter ce que je disais, c'est que Corneille et Racine ont pas fait preuve de grande solidarité vis-à-vis de Molière, hein, parce que du coup, par son imprudence ou par son courage, suivant comme où on se place, hein, il a mis un peu en danger l'édifice du renouveau théâtral. Où moi je me situe essentiellement dans l'hommage. Vraiment, j'essaye d'être le plus respectueux, mais par rapport à un Molière, évidemment, qui est à la fois avéré historiquement et qui est à la fois fictif, parce que Molière...
Il y a de vous dedans.
Il y a forcément de ce que j'imagine doit être...
Parce qu'on a affaire à un dramaturge metteur en scène comme vous.
Voilà, alors il y a un jeu de miroir, mais dans lequel peuvent se reconnaître beaucoup, beaucoup de troupes de théâtre, hein, qui sont simplement le quotidien d'une troupe de théâtre. La pièce commence par vraiment le quotidien d'une troupe de théâtre, en action, avec ses problèmes relationnels, avec ses problèmes techniques, avec ses problèmes économique, et puis petit à petit arrive la problématique du clergé, etc. Ce Molière-là, il est inspiré par ce que j'ai pu lire sur Molière, mais aussi parce que Molière lui-même nous a légué. Et c'est là, encore une fois, une des grandes forces de Molière, c'est qu'il a légué des impressions de lui-même, voire des critiques ironiques de lui-même. Deux choses me viennent à l'esprit. L'impromptu de Versailles, qui est une petite pièce où il se met en scène lui-même et sa troupe en train de devoir écrire une pièce dans l'urgence pour le roi et de pas y arriver, et il montre les engueulades au sein de sa troupe. Et en même temps, là-dedans, il explique comment il faut jouer. Il critique la concurrence de l'hôtel de Bourgogne et de la troupe du Marais. Hein, il se moque de ses concurrents. Ce faisant, il donne une leçon de théâtre qui peut encore servir, et il montre à quel point il était en avance, parce qu'il dit qu'il faut parler le texte et non pas le déclamer.
Voilà. Ce que vous avez essayé de faire, j'imagine, Dominique Ziegler.
Voilà, évidemment,
avec
les acteurs, c'est un peu l'ABC, c'est que l'alexandrin doit être respecté à la lettre, hein, le E muet avant la consonne, etc. Mais il doit être, évidemment, dit. C'est pour ça que toute cette distribution est magnifique, c'est que l'alexandrin, il passe de manière très allégée. Et il y a aussi le misanthrope dans lequel Molière se met lui-même en scène à travers Alceste, comme quelqu'un de très pur, qui réfute le snobisme, les phénomènes de cour, etc. Hein. Alors, en faisant ça, il critique la cour, ce qui est extraordinaire. Il fait aussi un portrait d'Armand de Béjart à travers le portrait de Célimène. Il met en jeu de miroir ses problèmes conjugaux avec Armande, qui était une coquette, voire une coquine. Et puis, il se moque de lui-même dans les réactions qu'il a vis-à-vis et de la cour et de ses histoires conjugales. Voilà. Donc, de ce Molière-là colérique, parfois de mauvaise foi, dont il a lui-même fait le portrait, je me suis inspiré. Ce que j'ai mis un tout petit peu de moi dedans, et j'étais pas sûr de le laisser, mais finalement j'ai pris le parti de le laisser, c'est à la toute fin de la pièce, je le fais douter du bien fondé du pouvoir de Louis XIV. Ce qui, pour l'époque, à mon avis, ne devait pas être le cas. Mais je me suis dit, parce que quand on écrit une pièce, après on est embarqué par ses personnages, forcément, à force d'être censuré, à force d'être lâché par le roi, d'essayer de l'atteindre et de pas y arriver, on peut imaginer qu'éventuellement Molière s'est posé la question de la solidité du rapport amical qu'il avait avec Louis XIV, parce qu'il faut savoir que Louis XIV était le parrain de son fils, hein, et qui se disait être son ami. On peut imaginer qu'il a commencé un peu à douter du bien fondé de ce lien, voire du bien fondé du pouvoir monarchique.
Et alors là, doute du pouvoir.
Là, j'ai mis une petite critique du pouvoir, toujours à l'alexandrin, que les puristes me peut-être critiqueront, mais qui s'inscrit, si vous voulez, dans la continuité de la pièce. C'est pas quelque chose qui est parachuté.
On ira écouter ça. Ombre sur Molière, ça commence demain au Théâtre Alchimique à Carouge, du côté de Genève. On trouve bien sûr toutes les informations sur notre site à nous. Merci beaucoup, Dominique Ziegler, d'avoir été avec moi. Et je vous dis rien pour demain.
Je prends.
Merci aussi à Carmen Algarada qui était en régie avec nous, Monique Cortési, notre assistante de production, et toute l'équipe de l'émission. Demain, ce sera spirituel avec François-Xavier Hammer. Très bon après-midi à l'écoute de la première. Il est 15h.